Gloire à Dieu. C'est une joie encore de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et nous allons continuer sur la série Revenir au fondement. Nous sommes à la quatrième étude sur ce thème. Si vous dites Amen, si je n'ai pas entendu les autres, eh bien c'est très simple. Vous allez sur le site internet de l'Église, tapez Église évangélique Colomiers sur Google, et vous allez tomber sur le site. Il y a un onglet Prédication, vous allez dessus et vous avez toutes les prédications, les dernières prédications depuis un an. Donc, vous avez de quoi faire et vous trouverez les prédications 1, 2, 3 sur revenir au fondement. Je vais vous faire un petit rappel quand même. Le premier fondement, c'est la parole. Et nous nous basons sur le livre de Néhémie pour bien voir sur quel fondement bâtir, puisque vous savez que Néhémie, son ministère a été de reconstruire la muraille de Jérusalem. Et lorsqu'il y a la reconstruction, eh bien on parle de fondement et on parle des attitudes à tenir. Et nous avions vu dans la première étude qu'on ne doit pas être dans le déni sur l'état où on se trouve nous-mêmes et où l'état où se trouve l'Église. Et nous avons vu que face à ce constat, eh bien nous devons prier, car tout commence par la prière. C'est ce que Néhémie a fait. Ce n'est pas voiler la face en disant tout va bien à Jérusalem. Il a vu que c'était un désastre et il a eu à cœur de jeûner et prier. Et je crois que c'est important que nous le fassions. Et puis on a vu aussi que prier c'est bien, mais il faut aussi se mettre à l'œuvre. Et au temps voulu, eh bien Néhémie a pu rentrer dans sa mission. Le Seigneur lui a ouvert une porte auprès du roi et il a pu ainsi être envoyé à Jérusalem pour reconstruire. Et en deuxième étude, considérer la reconstruction sur les bons fondements. Et on avait vu trois choses dans cette étude aussi. D'abord, c'était important avant de reconstruire, de prendre le temps de l'analyse. Il ne faut pas dire, oh ma vie c'est un désastre, allez, je vais prier, je vais faire. Tiens-toi devant Dieu et réfléchis et attends ses instructions. Si tu as vraiment à cœur de reconstruire, alors mets-toi à l'écoute. Amen. Et puis, une fois que tu as entendu, ben mobilise-toi pour cette reconstruction. On voit dans le livre de Néhémie que tout le monde s'est mis à reconstruire. Tout le monde, tout le peuple. Il n'y en a pas un seul qui est resté de côté. À part, il y a eu quelques exceptions, mais la grande, très grande majorité s'est mise à l'œuvre. Même les sacrificateurs se sont mis à faire les maçons. Et puis ensuite, important de prendre chacun notre part. Et puis la dernière fois, on avait parlé du combat spirituel, vous vous souvenez? Parce qu'à partir du moment où Néhémie et le peuple ont reconstruit, ben, il y en a un qui n'était pas d'accord. Il y en a un qui n'aime pas quand on reconstruit. Lui, il aime détruire. Donc si vous lui parlez construction, ça ne lui plaît pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient. Il y a toujours une réaction de l'ennemi. Il faut vous y attendre, il ne faut pas vous affoler. Parce qu'on a vu dans cette étude que nous avons des réponses à apporter à la réaction de l'ennemi. Et ces réponses, elles sont de plusieurs ordres. La prière, le fait de continuer de construire, la persévérance, la vigilance. On a vu qu'ils ont continué d'être vigilants. Hein, ils travaillaient avec, dans une main, ils avaient les outils, dans l'autre main. Ils avaient les armes. Se souvenir dans quel camp ils sont, c'est important aussi, se souvenir dans quel camp on est, parce que quand il y a une lutte, un combat, hein, on peut être dans la peur. Mais on a rappelé dans quel camp nous sommes. Et dans le camp où nous sommes, on n'a pas peur. Parce que notre chef est plus fort que le chef de l'armée ennemie. Il l'a vaincu à la croix. Amen. Et on a vu aussi que c'était important de veiller sur l'unité. Quand le diable veut empêcher de construire, un de ses systèmes favoris, c'est de diviser. Si des maçons sur un chantier sont divisés, ça va être compliqué, hein. S'ils ne veulent pas faire les murs au même endroit, etc., ça va être compliqué. Et puis, dans le troisième temps, on avait rappelé ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait dans le combat spirituel? Il nous révèle les stratégies de l'ennemi. Il nous montre. Il nous ouvre les yeux sur ce que fait l'ennemi, parce que parfois on peut se faire piéger, vous ne croyez pas? L'ennemi ne nous prend pas avec des pièges gros comme ça, hein. Parce que là, on ne se fait pas prendre. Mais c'est subtil parfois. Il anéantit les projets de l'ennemi. Amen. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et ça, on doit toujours s'en rappeler. Et puis se rappeler qu'il combat pour nous. De nombreux exemples dans la Bible nous montrent que dans des situations désespérées, dans des situations de guerre, de combat terrestre, avec lesquels on peut faire le parallèle avec le combat spirituel que nous menons, eh bien on a vu que le peuple n'a rien eu à faire. C'est Dieu qui a combattu pour lui. Amen. Et il y a des fois, tu n'as rien à faire, tu as juste à déposer les armes et te confier dans le Seigneur. Tellement de gens s'enfoncent dans leurs problèmes parce qu'ils essayent par eux-mêmes de mener le combat spirituel. En faisant telle chose, en mettant telle solution en place, en intervenant par soi-même. Vous priez pour quelqu'un pour que son cœur change, mais vous êtes toujours en train de lui dire ce qu'il doit faire. Mais non, si vous priez pour quelqu'un pour que son cœur change, ben vous laissez le Seigneur faire. Parce que quand vous allez intervenir auprès de la personne, au lieu qu'elle change, elle va s'endurcir. Parce que je sais pas comment vous êtes, mais moi j'aime pas qu'on me dise qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois changer. Ça, il faut être transformé par l'esprit pour l'accepter. Donc s'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas converti dans ta famille, ben laisse-le. Laisse le Seigneur combattre. On continue aujourd'hui avec le chapitre 5 du livre de Néhémie. C'est un chapitre assez exceptionnel dans la parole, où c'est des choses qui sont particulières, qui sont abordées. Et on lit le chapitre 5 et les quatre premiers versets. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. La situation était tellement catastrophique en Israël qu'il y avait des gens qui ne pouvaient même plus s'acheter à manger du blé. Et donc pour cela, ben ils mettaient des choses en gage, soit des propriétés, mais même parfois leurs propres enfants. Quand il est parlé au début, ce n'est pas tellement clair, mais il est dit, nous, nos fils et nos filles sont nombreux. Ça veut dire qu'on peut les mettre à disposition et à la place, vous nous donnez de l'argent. Or, si on lit dans les Écritures, dans Exode chapitre 22, verset 25, il est dit ceci, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Et puis dans Deutéronome chapitre 23, verset 20, tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Vous voyez, ça, en plus, c'est lié à la bénédiction. Hein. Et puis, un dernier texte dans le Lévitique, où là aussi, l'auteur du livre du Lévitique a rappelé l'interdiction des prêts avec intérêt, mais il ajoute, si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. On voit ici que beaucoup de choses ont été oubliées. Les murailles sont en ruine, c'est pas pour rien. Le peuple ne se comporte plus. Et c'est des choses qui sont devenues habituelles, en fait. C'est-à-dire que ça posait plus de problème à personne. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'avec le temps, des choses que Dieu a interdites deviennent acceptables. Parce que le temps est passé, le diable, lui, il est patient. Il change les mentalités, pas du jour au lendemain, mais tout doucement, progressivement, il nous amène à avoir des comportements qui sont contraires à la volonté de Dieu, mais on ne se sent pas repris. Et là, il faut que Néhémie intervienne devant ces mauvaises attitudes qui se sont installées. Et dans le cadre de notre étude sur le retour au fondement, j'aimerais voir avec vous la conduite à tenir quand le péché est révélé dans nos vies. Ici, c'est Néhémie qui va entendre ces doléances Et la première chose qu'il ressent, c'est de l'irritation. Il dit, mais comment on a pu faire ça? Néhémie 5:6, je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Rappelons que Dieu ressent ces mêmes choses hein, quand on désobéit. Ce n'est pas de la joie dans le ciel hein, quand les enfants de Dieu désobéissent. On parle des enfants de Dieu, là, on ne parle pas des non-croyants. On parle des enfants de Dieu. Mais, dans sa grâce, Dieu vient et il nous réprimande. Vous aimez être réprimandé? Mais c'est une grâce à chaque fois que Dieu vient nous réprimander. Parce que regardez dans quelle mentalité c'est fait. Est-ce que Néhémie dit, ah oui, tous ceux qui sont mal agis là, vous allez voir, vous allez être punis. C'est comme ça qu'il s'y prend? Non, il essaye d'interpeller leur cœur afin que les personnes elles-mêmes changent d'attitude. Et en fait, c'est ce que fait Dieu avec nous. Il ne vient pas pour nous punir. La punition, c'est Jésus qui l'a prise. Donc Dieu n'a plus besoin de nous punir. Mais il veut, ce n'est pas pour autant qu'il ne veut pas mettre le doigt sur les choses qu'on doit changer. Et quand il le fait, notre réaction, eh bien, ça doit être de nous repentir. La repentance, c'est un des fondements de la foi. C'est un fondement incontournable. Et si quelqu'un ici pense pouvoir se passer de repentance, alors on pourra le comparer aux pharisiens que Jésus rencontre lors de son pèlerinage sur terre, où il avait en face de lui des hommes qui disaient, mais nous sommes les fils d'Abraham. Nous n'avons pas besoin de nous repentir. La repentance, c'est un élément essentiel. Dieu ne vient pas, encore une fois, pour nous punir. Il vient pour nous inviter à cesser de pécher. Je pense à l'attitude de Jésus devant la femme adultère. Ceux qui sont de la loi, eux, ben, ils font ce qui leur semble bon. On applique la loi. Adultère, lapidation, mise à mort. C'est la loi. Ils font rien de mal, hein, en fait. Mais Jésus vient montrer un autre état d'esprit, une autre mentalité. Et il dit à cette femme, moi je ne te condamne pas. Mais il lui dit aussi, va et ne pêche plus. Est-ce qu'il lui met une sanction? Non. Il enlève la sanction et il exhorte. Et en fait, la nouvelle alliance, c'est ce beau programme, mes frères et sœurs. Moi, je préfère que quelqu'un m'amène à comprendre les choses et à le faire par moi-même, plutôt que quelqu'un me punisse. Parce qu'on sait que la punition, ça peut souvent être contre-productif. On l'entend beaucoup hein, aujourd'hui, avec le contexte actuel. Oui, il faut punir davantage. Je suis convaincu que ce n'est pas la solution. On peut augmenter les peines. C'est les mentalités qui ont besoin d'être changées. On est dans une situation de rupture où les gens ne comprennent plus rien à rien. Et vous pouvez leur dire, vous aurez, au lieu d'avoir 2 ans de prison, vous en aurez 3 ou 4. Mais ils s'en contrefichent. Parce que leur cœur est complètement dévoyé. Et ce dont notre pays a besoin, comme beaucoup de pays, c'est que les cœurs soient changés, mais de haut jusqu'en bas. Hein. Parce que ceux qui disent, oh, les petits voyous, comment ils se comportent? Certains d'entre eux, on voit aussi ce qui leur arrive. Néhémie va se résoudre à faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Il n'a pas peur, hein. Parce qu'évidemment, ceux qui ont fait ça, c'est ceux qui ont les moyens. Ce n'est pas les pauvres. Les pauvres, c'est ceux qui ont subi. La repentance, c'est là le premier point que je voudrais voir, et ensuite on parlera d'un deuxième fondement qui est celui de la grâce. C'est ce qui est résumé dans ce chapitre, et on va le voir ensemble. Néhémie chapitre 5, versets 9 à 12, le début du verset 12. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés parmi les nations, nos ennemis? Vous vous rendez compte la conséquence, hein? Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Même Néhémie, apparemment, il était aussi dans l'affaire. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons et le centième de l'argent du blé, du moût et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Amen. La première chose à faire dans le domaine de la repentance, c'est reconnaître son péché. La Bible nous dit que tous ont péché. S'il n'y a pas un juste, tous sont privés de la gloire de Dieu. Vous connaissez ce texte dans Romains chapitre 3, verset 10. C'est un texte très important. Personne ici peut dire, moi, je n'ai jamais péché. Et donc, nous sommes tous interpellés par le thème de la repentance. Néhémie déclare, ce n'est pas bien, ce que vous faites n'est pas bien. Donc, disons les choses, appelons-les comme elles sont. Il va avouer lui aussi avoir fait de même, semble-t-il. Et la deuxième chose à faire, une fois qu'on a reconnu son péché, son erreur, c'est désirer changer. Parce que s'ils avaient dit « Ah oui, c'est pas bien ce qu'on a fait, mais on va attendre le jubilé. » La valeur de la repentance... Jésus parlera des fruits de la repentance hein, qu'il ne voyait pas chez certains. Parce qu'on peut se repentir avec la bouche. Mais ce qui est important, c'est de mettre des actes derrière. Amen. Moi, je suis impressionné par l'attitude des magistrats et des grands du peuple d'Israël. Franchement, je suis impressionné. Depuis le début de l'histoire. D'abord, quand Néhémie va regarder la muraille de nuit, puis qu'il revient et qu'il essaie de les motiver pour reconstruire, ils disent tous, ouais, on y va. Moi, il a de la chance, Néhémie. Il a un peuple ouvert face à lui, prêt à faire ce que Dieu demande. Et là, une fois de plus, alors qu'il demande pas rien, là, hein, il demande pas rien. C'est des pertes importantes que vont subir tous ceux qui vont mettre en règle leur situation. Mais tout de suite, ils disent, nous le rendrons, nous le ferons. Amen. Je prie que l'Esprit de Dieu agisse au milieu de nous pour qu'il y ait la même réactivité lorsque la parole nous interpelle. Amen. Le deuxième fondement, que l'Esprit nous rappelait ce matin, c'est la grâce. Nous sommes bénéficiaires de la grâce en ce que, nous l'avons vu, Dieu ne nous punit pas à cause de nos fautes. D'accord? Vous comprenez bien ça? Tellement de fois j'entends des allusions, si m'arrive ça, c'est parce que j'ai dû faire quelque chose de mal. Ça veut dire, ben, Dieu me punit. Mais Dieu ne nous punit pas. Et quand il t'arrive des choses, souvent, la plupart du temps, c'est juste que c'est la conséquence de tes erreurs. Dieu n'a même pas besoin de te punir. Tu t'es puni tout seul. Je prends souvent l'image de l'enfant hein, à qui on dit « ne touche pas le poil. Touche pas le poil, tu vas te brûler. » Si l'enfant, il va, il touche le poil et il se brûle, il a la main toute rouge, c'est ses parents qui l'ont puni? Non? Dieu ne nous punit pas. Nous nous punissons nous-mêmes lorsque nous n'écoutons pas ses conseils. La grâce, elle est manifestée par Néhémie et tous ces hommes qui disent « Nous ne demanderons rien en retour. » Incroyable. On ne demande rien en retour. La grâce, c'est ça. Dieu ne vous demande rien en retour. Cessez de vous agiter dans tous les sens pour obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Ce que nous le faisons par reconnaissance pour ce qu'il a fait et non pas pour obtenir quelque chose. Parce que nous avons déjà tout eu en lui. Tout est accompli. Nous avons tout en Jésus-Christ. Et lorsque je sers le Seigneur de tout mon cœur, lorsque je consacre du temps, je consacre mon argent, mes biens, quand je fais tout ça, c'est en retour de l'amour qu'il a manifesté. C'est surtout pas pour dire, ah si je le fais, je vais être béni. Ou si je le fais, je vais gagner ma place au paradis. C'est vraiment dénaturer la grâce. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Amen. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Nous avons juste à croire. Nous avons juste à croire. Et si nous croyons vraiment, les actes vont suivre. Tu sais, il y a une différence entre la foi et la croyance. Il y a des gens qui disent, ah, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, je sens une force au-dessus de nous. Ou des gens disent, moi je crois en Dieu. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Ça, c'est la croyance. La foi, dans la racine du mot foi, il y a la fidélité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris en qui j'ai cru, alors je désire lui obéir. Non pas parce que j'ai peur de lui, des conséquences que ça peut avoir si je désobéis, mais parce que je sais que c'est bien de lui obéir. C'est ce qui va me rendre heureux. C'est ce qui va être bon pour ma vie. Amen. Comme Néhémie et les magistrats, Dieu nous fait grâce. Nous n'avons rien à payer. Jésus a déjà tout payé pour nous. La grâce, elle doit être reçue, mes frères et sœurs. Vous devez la recevoir. C'est difficile de recevoir la grâce. Parce que notre logique à nous, c'est qu'on doit toujours payer quand on reçoit quelque chose. On doit recevoir la grâce parce que si on ne reçoit pas la grâce, on ne sera pas capable d'accorder la grâce. Mais si je reçois la grâce, je vais pouvoir accorder la grâce comme ont pu faire Néhémie, les magistrats, les grands du peuple d'Israël. Au chapitre 5, verset 8, Néhémie va préciser quelque chose d'important. Nous avons racheté, écoutez bien, nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères, les Juifs, vendus aux nations. Donc certaines personnes avaient été rachetées alors qu'ils avaient été pris comme esclaves dans les autres nations. Ils ont été rachetés pour revenir. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et vous, viendrez-vous, vous-même, nos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus? Ils se turent et ne trouvaient rien à répondre. Eh oui. On va chercher nos frères et sœurs esclaves dans un pays étranger, on les ramène, et puis nous, on les fait esclaves. Extraordinaire. Mais en fait, tout ça résume le comportement de l'être humain. C'est-à-dire que Jésus nous a rachetés, il nous a libérés, nous sommes affranchis, nous ne sommes plus esclaves, mais combien de fois nous retournons en esclavage? Parce qu'au lieu de considérer la grâce, nous sommes encore sous la loi. Je vous invite à lire et à étudier l'épître de Paul aux Galates. C'est la problématique qu'il y avait dans l'église de Galates. Vous savez qu'il y a eu des problématiques à la naissance de l'église. Il y avait les juifs convertis qui étaient nostalgiques de la loi. Et ils voulaient revenir à la loi. Ils voulaient faire un mélange entre l'évangile et la loi et toutes les traditions. Sauf que non, on ne peut pas faire de mélange. Et Paul va s'inscrire en faux auprès de certains parmi les Galates qui voulaient revenir à la loi. Et Galates chapitre 2 verset 21 nous dit ceci, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » C'est clair. Quand vous revenez à la loi, vous expliquez à Jésus qu'il a perdu son temps en allant à la croix. C'est grave, hein? C'est grave, je ne veux pas le dire en plaisantant, c'est grave. Je veux fonctionner sous la grâce. Bien sûr, Paul, dans la même épître, il dira, ne faites pas de la grâce une liberté. Hein, sous prétexte de la grâce, ah ben c'est bon, on peut tout faire, on ne sera jamais puni. Ok? Mais non. Non, parce que Dieu voit les cœurs. Dieu voit nos cœurs. Il lit dans nos pensées. Et on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Mais si je suis sincère dans ma repentance, je peux croire de tout mon cœur que je suis pardonné de mes péchés. Amen. Sans que j'aie rien à faire, sinon juste de croire que Jésus m'a lavé, m'a purifié à la croix. Amen. Ne reste pas sous la culpabilité, sous le joug de la loi. Mais tu es un enfant, tu es un fils, une fille libre. Tu n'es plus esclave. Tu es fils dans la maison. Paul aussi, dans cette même épître, fait la comparaison entre dans une maison, celui qui est fils et celui qui est esclave. Ils n'ont pas les mêmes possibilités, ils n'ont pas le même rang. Et nous, nous sommes dans la maison que Dieu, où Dieu nous a invités, et nous pouvons nous comporter comme des esclaves alors qu'il nous a dit, mais tu es fils. La grâce, c'est tellement important. Je l'ai dit parce que si on n'a pas reçu la grâce, si on n'a pas bien reçu la grâce, on ne pourra pas exercer la grâce. Et la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est le jugement, la sévérité des gens au sein des églises envers ceux qui se sont mal comportés ou autres. Il y a des choses qui vont trop loin parce que les gens n'ont pas reçu la grâce. Et donc, comme eux, ils se sentent sous la loi, ils imposent la loi aux autres aussi. La grâce, ce n'est pas le laxisme. Si quelqu'un s'est mal comporté, il est parlé de réprimande. On va dire à la personne que ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien. Mais sans jugement et sans punition. On dit, on est dans la vérité. Et si quelqu'un ne change pas, malgré ce qu'on lui a dit, on va continuer de l'aimer, mais par contre... La grâce ne veut pas dire « Oh, ben viens, continue ». Non, s'il est dangereux, s'il a fait des choses qui ne sont pas convenables, ça, on va lui dire « Écoute, tu gardes tes distances si tu ne veux pas changer ». La grâce, c'est un équilibre. Mais c'est jamais le rejet, c'est jamais la haine. Amen. Je conclue ce moment. Il est important qu'on revienne... sur les bons fondements, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, la parole, la prière, le discernement, la vie de l'esprit, toutes ces choses qui sont sous-jacentes dans tout ce qu'on voit depuis le début, nous devons nous examiner encore une fois, je vais le rappeler dans ce temps de conclusion, ne soyons pas dans le déni, tout va bien, tout va bien. Mettons-nous devant Dieu, comme David l'a fait. Seigneur, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Hein? C'est une belle prière que nous devons tous faire. Conduis-moi sur la voie que tu as tracée pour moi, Seigneur. Que je puisse faire ta volonté. Amen. Soyons, faisons-le avec beaucoup de liberté. Pourquoi on ne le ferait pas? Puisqu'on nous dit qu'on ne va pas être puni, on peut avoir peur de dire « Ah, je me suis mal comporté » si on a peur de la punition. Mais quand on dit à Dieu qu'on s'est mal comporté, il n'y a pas de punition. Il y a une invitation à la repentance et une invitation à la restauration, au pardon. Donc pourquoi avoir peur de confesser son péché? Peut-être qu'on est influencé par l'histoire religieuse de notre pays et de la confession. Il s'agit tout simplement du renoncement auquel on a besoin. Pour revenir au fondement, il faut renoncer à soi-même. Et ce matin, nous avons vu que c'était important de se fonder sur la grâce. Le bon fondement, c'est se fonder sur la grâce et sur la grâce seule. Vous connaissez un des credos de Martin Luther, sola gratia. Seulement la grâce. D'accord ? La réprimande de Dieu ne s'accompagne pas de sanctions. Elle nous invite à reconnaître notre péché, à nous approcher de lui pour qu'il change nos cœurs en profondeur. Amen. On va prier ensemble quelques instants. J'aimerais m'adresser d'abord peut-être à quelqu'un qui n'est pas encore chrétien, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, qui est peut-être sympathisant, qui aime bien l'Église, mais qui n'a pas encore fait ce pas de foi pour dire, Seigneur, je veux être ton enfant. Je veux t'inviter à t'approcher de lui sans avoir peur et simplement de reconnaître que tu es pécheur, que tu as besoin du pardon, que tu as besoin de restauration dans ton cœur, dans tout ce parcours de vie que tu as eu. Peut-être il y a eu toutes ces blessures, ces choses qui se sont mal passées pour toi, ces échecs, ces difficultés au niveau de ta famille, au niveau de plein de domaines. Mais Seigneur, il t'accueille parce qu'il t'aime. Il te fait aucun reproche. Toi, tu as juste à examiner ce que tu as fait et voir ta part de responsabilité, demander pardon. Pour ceux dont tu n'es pas responsable, tu demandes au Seigneur de te guérir, tout simplement. Et il le fait. Amen. Il le fait parce qu'il est puissant. À la croix du calvaire, il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la souffrance émotionnelle. Il a vaincu la maladie. Amen. Puis je veux m'adresser à toi qui marches avec le Seigneur depuis des années. C'est pas la première fois que le Seigneur fait ce rappel. Mais vous savez qu'il faut répéter, et souvent répéter plusieurs fois. Est-ce que tu as vraiment fait un travail d'introspection dans ta vie pour savoir où tu en es aujourd'hui et qu'est-ce qui a besoin d'être changé? Pourquoi tu ne viendrais pas devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, je veux faire ce travail avec toi? Puisqu'il t'est rappelé ce matin que quoi que tu aies fait, tu ne seras pas puni. Tu seras encouragé à changer. Et si toi, tu as envie de changer, crois-moi, je peux te garantir que le Seigneur va t'aider. Ça, c'est une certitude. Si dans ton cœur, tu as vraiment envie de changer et que tu demandes l'aide de Dieu, Dieu va t'aider. Et tu vas voir les transformations et changements dans ta vie. Est-ce que certains ont besoin de cela ce matin? Qui s'approchent du Seigneur dans ces instants? Et on prie ensemble, tous ensemble. On remet nos vies entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ces rappels concernant la repentance et la grâce. Seigneur, qui suis-je pour dire je n'en ai pas besoin? Seigneur, merci parce que j'ai appris en marchant avec toi que c'était bon quand tu me reprends. Et je veux que tu me reprennes à chaque fois que c'est nécessaire. J'ai besoin de changer encore. J'ai besoin de changement en profondeur. Et je sais que toi seul peux le faire. Par mes propres moyens, je suis vaincu d'avance. Mais si ma vie est bâtie sur le fondement Jésus-Christ, si le Saint-Esprit vient et est déversé en abondance, alors tu agis et tu changes mon cœur. Merci pour le pardon que tu accordes aussi à celui, celle qui s'approche de toi ce matin, en voulant devenir ton enfant. Merci parce que tu dis dans ta parole, si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour le pardonner. Tu le fais ce matin pour celui qui s'approche de toi. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.